Et vous écoutez France Culture. Il descend de voiture, contemple les vallées, inspire l'air dans ses poumons et le recrache dans un hurlement. Yakla Inkomo, le beuglement du bœuf à l'abattoir. Le son résonne, puis faiblit et meurt. Mike Nicol, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui vous proposera ce soir une rencontre avec l'écrivain sud-africain Mike Nicol, dont le dernier roman, L'Agence, paraît en série noire. Poète, essayiste et biographe de Nelson Mandela, Mike Nicol dresse, au fil de son œuvre romanesque, une contre-histoire sombre et écharpée de l'Afrique du Sud qu'il rend, loin de toute rêverie irénique, à sa vérité historique et à ses fractures sociales et ethniques, chroniques en second temps d'émission d'ouvrages signés Franz Bartelt et Arpad Soltesch. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre polar. Ce soir, je suis bien évidemment accompagné d'Élise Lépine. Comment va-t-elle?
Elle va très bien, merci beaucoup.
L'éditrice a deux actualités qu'on peut rappeler, on les a déjà citées, on les rappelle.
Voilà, deux actualités aux éditions Playlist Society. Voilà. Lily et Lana Wachowski, La grande émancipation d'Erwan Desbois. Et puis Pacôme Thielman et Sarah Atuel qui viennent de faire paraître The Leftovers de l'autre côté du miroir. Voilà, qui est consacré à la série mythique.
Merci Élise. Hubert Prolongeau est là.
Eh oui, bonjour.
Quelle,
et ravi d'y être.
Quelle est son actualité?
Elle est plus vagabonde et plus banale. Non, il n'y a rien de très fort. Sinon, quand même, c'est intéressant parce que ça dit sur la sensibilité de notre époque au thème. La bande dessinée, donc Le Travail m'a tué, qui est sortie avant l'été, que j'ai coécrit avec Arnaud Delalande en reprenant l'histoire d'un suicidé de Renault et qui a un parcours assez étonnant. Donc le premier tirage a été épuisé, on est invité dans plein d'endroits, la CGT s'intéresse à nous.
Mais ça
veut dire quand même que, alors qu'on pouvait croire que le sujet était un peu un sujet du passé, qu'on a à nouveau touché un point sensible et que malheureusement le mal-être des gens au travail reste d'une actualité assez terrible.
On vous rappelle l'éditeur.
Futuropolis.
Chez Futuropolis. Et bien maintenant, l'heure est venue. Bonsoir Céline.
Bonsoir François.
On parlera de votre actualité après.
Ah, l'effet de suspense.
Après votre encyclopédie pratique des mauvais genres. Et ce soir, on l'ouvre à la lettre.
Eh bien, nous retrouvons Anne Devoray.
Souvent, les gens tiquent sur le mot et souvent, quand ils le voient écrit, ils le disent. C'est-à-dire, j'ai souvent cette expérience de voir les gens le déchiffrer et le dire. Je pense que c'est un mot qui donne plaisir à dire parce que c'est presque une onomatopée en fait. C'est-à-dire qu'il exprime un peu ce qu'il veut dire par le son, spasme. Et c'est un titre que j'ai mis assez longtemps à trouver quand j'ai fondé la revue au tout début. Et je trouve qu'il a une manière d'exprimer ce vers quoi finalement l'érotisme tend, c'est-à-dire avant tout une sensation corporelle en fait, c'est-à-dire une sorte d'aboutissement la revue a pour projet de dérouler tout ce qui se passe avant le spasme. Voilà. Et ce que je trouve assez intéressant dans le spasme, en tant que terme comme ça assez général, c'est que finalement le spasme peut advenir de mille et une manières. C'est-à-dire que ça ne donne pas d'idées préconçues sur le chemin qui nous y amène en fait. Et ça, c'est une idée qui me plaisait pas mal.
Spasme est une jeune revue créée par Anne Devoray qui a choisi d'explorer l'imaginaire érotique. Chaque numéro se présente comme un paysage intime où le texte et l'image se répondent, mais sans jamais s'illustrer mutuellement. Poèmes, dessins, gravures, textes graphiques venus de différents contributeurs apparaissent au fil des pages, donnent une tonalité et créent une atmosphère. Le dernier numéro de Spasme, par exemple, est à lire comme une suite de chambres en enfilade qui nous ferait pénétrer un peu plus dans une intimité, une couleur, une qualité de spasme.
C'est poser la question de savoir qu'en est-il de la qualité, presque dit crûment, de ce qui nous fait jouir, c'est-à-dire que le spasme, on va l'associer à la jouissance, et comment arriver là par un chemin de qualité, par des images qui nous soient propres, par un univers qui soit riche, et en fait, pour moi, un spasme réussi, c'est un spasme qui émane d'un endroit qui nous appartient, mais aussi d'un endroit qui est peuplée d'images riches, en fait. Moi, j'ai fondé cette revue à la base un peu comme un acte de résistance, d'une certaine manière, dans un monde où on a beaucoup accès à des images très fortes, parce que pornographiques, très détaillées, très crues. Et en fait, cette force de l'image, elle a une tendance à supplanter notre imaginaire, à remplacer nos propres images par des images produites par d'autres. Il y a une forme de un peu de viol de l'imaginaire, d'une certaine manière, dans la société de l'image. Et le projet de Spasme, ça a été de se dire comment on réinsémine, en fait, un peu notre imaginaire érotique, comment on arrive à voyager dans les imaginaires des autres pour faire croître et féconder le nôtre, en fait. Quand on engage dans un rapport amoureux ou sexuel, purement, on a aussi une vision très partielle de ce qui se passe. Tantôt on voit, tantôt on sent, tantôt on goûte. Et donc en fait, il y a comme une espèce de cadrage du réel comme ça qui va arriver un peu par confetti. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, et qu'est-ce qui se passe si on suit que les mains ? Et les mains sont en fait pour moi des organes éminemment sexuels qui ont cette particularité finalement d'être aux yeux de tous. Alors que finalement, il y a beaucoup d'attributs sexuels qu'on va cacher, qu'on va mettre sous des tas de vêtements. Mais finalement, les mains, c'est des organes très sexuels qui sont à la vue de tous, qu'on voit. On parle avec nos mains, on montre avec nos mains. Les regarder agir comme des organes un peu redéfinis, en fait. Et de regarder petit à petit quelles sont les actions qu'elles ont, qu'est-ce qu'elles engagent, à quoi est-ce qu'elles se raccrochent, qu'est-ce qu'elles froissent, dans quoi elles rentrent, dans quoi elles sortent, enfin bon voilà, un petit peu ce... Et c'est un peu cette idée du cadrage, en fait.
Mains nues, le texte d'Anne Devoray est à lire dans le Spasme de septembre 2018, finement glissé entre des dessins d'Elizabeth St. James et de Laure Forêt dont on ne parlera jamais assez. Le tout dernier Spasme, lui, vient de sortir. Vous y trouverez les contributions d'Éric Pessan, de Clara Citron, de Tympan Cucu, ainsi que les œuvres de Chloé Poisat et de Frances Waite. Spasme est à retrouver dans toutes les bonnes librairies ou sur le site internet spasme.fr, et à noter que Spasme sera aussi présent à la fête de la revue à la Générale à Paris les 2 et 3 novembre, ainsi qu'à Offsprint aux Beaux-Arts de Paris du 7 au 10 novembre.
Merci Céline pour cette entrée spasme de notre encyclopédie pratique des mauvais genres.
Je réalise d'ailleurs que j'ai rajouté un S, c'est à cause du mot spasme, c'est pas off sprint, mais off print. C'est moi qui mets des S partout, c'est le côté spasmique de la chronique.
Voilà. Il devient contaminant. Réaction d'Élise Lépine et de Hubert Prolongeau qui sont en plein spasme, en pleine lecture de la revue, ça. Je veux bien dire.
Non, mais c'est un bel objet avec... une espèce de mise en parallèle de dessins étranges, à la fois pudiques et très emmêlés, et de textes beaucoup plus crus, et la confrontation est assez intéressante.
Moi, j'ai bien aimé quand elle a dit que c'était comme une onomatopée spasme, mm-hmm. parce que elle dit bien le rapport entre le mot et la sensation, et c'est ce qui est suggéré à la lecture. Là, on vient effectivement de regarder et ce rapport entre ce qu'on lit et ce qu'on ressent est présent quand on feuillette. Donc, on a envie de s'y plonger pour
jusque
ressentir
dans la
encore
douceur
plus
du papier.
Merci, on va évoquer rapidement l'actualité de Céline Duchesnay, qui n'est pas que spasmique, ou qui prend plusieurs formes à ce titre.
Qui est mycorhizienne.
Voilà, très bien. La première, une production qu'on va pouvoir entendre, réalisée avec Laurent Polleret, donc sur France Culture, on en sait plus.
Ce sera donc du lundi au jeudi dans la série documentaire, donc de 17h à 18h. Nous avons fait une série qui s'appelle Les champignons sortent du bois, où vous allez tout savoir sur les champignons, et surtout ceux que vous ne connaissez peut-être pas très bien, ce que l'on trouve dans les fonds marins, ce que l'on trouve dans les fonds, au fin fond d'un village au Mexique et qui vous permettent de voyager et peut-être même de rencontrer Dieu. Et puis, on va aussi savoir beaucoup de choses sur les peuples mycophiles ou mycophobes, à savoir si vous, François, vous êtes plutôt du côté des mycophiles.
Ah, je suis mycophile, moi, j'adore les champignons.
C'est normal que vous êtes français, donc vous allez apprendre tout ça en fonction de votre peuple. C'est Lévi-Strauss qui a expliqué ça. On sait si vous pouvez ou pas aimer les champignons.
Et moi, je signale de Céline Duchesnay aux éditions Michel Lafon et en coédition avec France Culture, Les Sorcières, une histoire de femme de Céline Duchesnay. Donc, un livre abondamment illustré, émané de votre série fortement
oui,
écoutée.
Voilà, que j'avais fait avec Laurent Polleret, qui était diffusée en avril 2018 et qui a donné lieu à une version papier. Donc, c'est vrai qu'après avoir virevolté sur les ondes, Les Sorcières sont maintenant couchées sur du papier à partir du 24 octobre, la date de sortie du livre.
Le livre est disponible à partir du 24 octobre, mais on reviendra sur Les Sorcières. Donc,
peut-être.
Courant novembre avec vous, Céline. Alors des sorcières, on peut en trouver très éventuellement, mais on en trouve chez Edgar Poe. Alors Edgar Poe, pourquoi ? Parce que la Cinémathèque de Toulouse lui consacre plus qu'une rétrospective, un véritable événement du 16 octobre au 5 novembre. Alors d'abord, bien évidemment, Cinémathèque faisant de la projection de films importants, vous pourrez voir tous les films de Corman, La Chute de la Maison Huchère, La Chambre des Tortures, mon préféré, Le Corbeau, le Masque de la Mort Rouge, mais également d'autres classiques comme celui de Jean Epstein, Le Double Assassinat dans la rue Morgue de Robert Fleuret, puis des films quand même moins connus et moins vus, indépendamment de toujours cette chute de la Maison Huchère d'Alexandre Astruc. Je signale aussi Le Scarabée d'Or de Maurice Ronet et Le Système du Docteur Goudron et du Professeur Plume de Claude Chabrol. Donc toute une rétrospective cinématographique Poe, car c'est une année Poe, une année en neuf. Poe étant né en 1809 et mort en 1849. Donc cette commémoration est importante. Je signale également le 30 octobre, une rencontre toujours à la Cinémathèque de Toulouse avec Christian Garcin, qui est le maître d'œuvre de la retraduction des œuvres d'Edgar Poe chez Phébus, trois très beaux volumes reliés. Et puis également le 26 octobre, pour les amateurs, il y aura une murder party. Et ne ratez pas l'exposition qui se tient toujours à Toulouse, donc du 10 septembre au 3 novembre, Les Chambres Obscures d'Edgar Allan Poe. Voilà, c'était notre salut ce soir à Edgar Poe. En attendant, eh bien, on a rendez-vous maintenant bien loin de Boston et de l'Amérique du Nord avec Mike Nicole, donc, que nous avons rencontré à l'occasion de la sortie aux éditions Gallimard dans la série noire de son dernier roman L'Agence. De quoi s'agit-il? On l'écoute. L'entretien est traduit par FDR et je le fais bien sûr avec Hubert Prolongeau. Bonjour Mike Nicole. Merci d'accorder cet entretien à Mauvais Genre sur France Culture à l'occasion de la parution chez Gallimard en série noire de votre roman L'Agence, un roman de 2016 titré à l'origine Agents of State. Et on va voir que tous les mots pèsent dans ce titre. Mais avant cela, vous avez opéré, si j'ose dire, pas sur nombreux théâtres d'opérations littéraires, à la fois le roman, la poésie, l'essai, cette journaliste, même les livres pour enfants, vous avez donc travaillé dans tous les genres. Mais si on se concentre plus particulièrement sur vos romans, il apparaît que vous mettez en place une véritable histoire parallèle ou une contre-histoire de l'Afrique du Sud, puisqu'on vous voit traiter de questions religieuses, questions économiques, de questions politiques, militaires. Dans chaque roman a un petit peu son angle d'attaque. Est-ce que chez vous, il y avait ce projet dès le départ, ou est-ce que il est venu peu à peu d'être un peu l'historien d'une autre Afrique du Sud?
Ça a commencé après l'écriture de la fiction et j'ai dérivé assez facilement, je dois dire, vers le monde politique. Si on a grandi sous l'apartheid, automatiquement, on a des idées politiques, on se façonne des idées politiques sur le pays. Tous mes premiers romans comportaient une touche d'histoire politique. Et puis après, ça a été 1994, l'avènement de la démocratie dans le pays. Et pendant assez longtemps, près d'une décennie, je ne savais pas comment aborder cette réalité toute nouvelle. Et puis j'ai commencé à lire des polars. Et j'ai pris conscience du fait que le polar, eh bien, c'est un roman politique, éminemment politique. Ça vous permet d'écrire sur l'état présent du pays contemporain. Donc j'ai commencé à écrire des polars à mon tour. Et j'ai trouvé ça très plaisant. Et puis ça me permettait de faire une satire des événements dans le pays.
Une satire, donc c'est le mot que vous choisissez. Vous pensez que vous êtes un satiriste ?
Oui, oui, je me revendique comme satiriste et j'espère que ça sent dans ce livre. Quand j'ai commencé à écrire des polars, ça parlait beaucoup de la société, des problèmes de drogue, les problèmes de braconnage, rhinocéros, etc. Et puis j'ai compris tout à coup que le plus grand criminel dans le pays, c'était le gouvernement, complètement corrompu. Tout le monde mettait de l'argent dans ses poches. Et je crois qu'il convenait de présenter le gouvernement sud-africain comme une organisation mafieuse, une organisation de crime organisé.
Hubert Prolongeau.
Par satire, est-ce que vous voulez dire que vous essayez de dépasser le rôle de témoignage d'une société, aussi corrompue soit-elle, qu'est le roman policier, pour donner une vision qui soit moins réaliste ? Et une question un peu induite par celle-là, est-ce pour cela que votre précédent roman, le moins le précédent traduit chez nous, Power Play, était une transposition directe en Afrique du Sud d'une pièce de Shakespeare, Titus Andronicus ? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, il faut dépasser le réalisme pour parler de l'Afrique du Sud ?
En un sens, oui, la réponse est oui, absolument. Ça m'intrigue, ça me fait plaisir que vous ayez relevé Titus Andronicus, la pièce de Shakespeare. Tout le monde n'a pas remarqué cela. C'est une pièce très intéressante. Et quand je vois ce qui s'est passé au Cap, dans ce qu'on appelle les Cape Flats, un endroit où tous les gens qui avaient été expropriés se sont retrouvés à la dérive. Complètement à la dérive, il y a beaucoup de gangsters, de drogue, de braconnage également qui ravagent cette société. Et Titus et Andronicus, c'était une pièce qui s'adaptait parfaitement à la situation. Je pouvais même servir des mêmes noms parce qu'on trouve des noms similaires à ceux des habitants de cette région. Mais quand on traite de la réalité, comme vous l'avez souligné, il convient de la dépasser pour vraiment faire comprendre au lecteur la situation qu'on décrit. C'est ce que j'ai voulu faire en prenant appui sur cette pièce de Shakespeare.
Alors, Shakespeare pour Power Play, mais dans l'agence Mike Nicol, il semble que c'est plutôt Lewis Carroll. Est-ce que vous voulez dire par là que l'Afrique du Sud a basculé de la tragédie sanglante dans le non-sens ?
C'est vrai qu'en un sens, la société sud-africaine, c'est le non-sens, c'est l'absurde total. Et Alice au Pays des Merveilles, eh bien, c'est vrai que c'est devenu pour moi un texte fondateur pour l'écriture de ce livre. L'agence. Elle est descendue dans le terrier du lapin et elle se retrouve dans une situation où tout peut arriver. Dans ce pays, le président autorise deux personnes venues d'Inde à entrer et à voler le pays, à le déposséder. Et ce président, qui avait été un grand homme pendant les années de la lutte anti-apartheid, Zulma a réussi à détruire le pays, à le mettre en pièces en 10 ans seulement. Et maintenant, comment reconstruire ce pays? Comment le remettre sur pied?
Donc,
mais je ne crois pas que, comme dans Alice au Pays des Merveilles, à un moment, on va se réveiller en disant « Ah, c'était un rêve, un mauvais rêve ».
L'une des idées reçues sur l'Afrique du Sud chez nous est que, à l'inverse d'autres pays, elle a réussi sa révolution, que la révolution pacifique a pu se faire, que l'apartheid a été aboli sans qu'il y ait des massacres, sans que ça tourne mal. L'image que vous donnez dans vos livres de l'Afrique du Sud aujourd'hui est assez catastrophique. Est-ce que nous, cette image qu'on a d'une réussite pacifique de la révolution est totalement utopique ou est-ce qu'elle correspond un peu à la réalité ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé après ?
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans les 5 ans qui ont précédé 1994, davantage de personnes ont été tuées qu'entre 1948 et 1989. Des milliers de morts. Donc, on peut parler, on voit une transition pacifique, mais en tout cas, il y a eu quand même des bains de sang et des massacres. Tout cela s'est déroulé essentiellement au sein de la communauté noire. Les Blancs ont été très peu affectés par ces massacres qui ont eu lieu pendant ces années-là. La situation aujourd'hui, c'est que la violence continue de sévir à des niveaux absolument incroyables. Le taux de criminalité, les crimes de sang, notamment, eh bien, donnent des chiffres plus élevés que le nombre de morts dus à la guerre en Syrie. La maltraitance des femmes, des enfants, est incroyablement élevée. Une des plus élevées du monde. Donc la société, pour moi, s'est complètement effondrée. Il n'y a plus de contact, d'échanges sociaux réellement entre les gens. Alors comment redresser le pays, comment le remettre sur pied? Je l'ignore. Surtout quand on parle aussi du chômage à des niveaux sans précédent. Et à l'heure actuelle, le président ne semble pas vouloir agir de manière drastique. Il semblerait qu'il parie sur le long terme et il a aligné le système juridique là-dessus.
Votre président, c'est Jacob Zuma?
Oui, le président décrit dans l'agence, c'est Jacob Zuma.
C'est un livre qui se passe beaucoup en ville. Racontez-nous un peu les villes sud-africaines. Vous vivez-vous au Cap? On parle beaucoup de Johannesburg, souvent dépeint comme une des villes les plus violentes du monde. Est-ce que cette image est vraie ou non? Et pour vous, est-ce qu'elle est un terreau fertile à faire pousser vos héros de polar?
Je reprends la dernière partie de votre question. En tant que romancier, on semble rivaliser avec la réalité sans cesse, mais souvent la réalité dépasse la fiction, comme on le dit. En effet, beaucoup des scènes de ce livre se déroulent dans des grandes villes, essentiellement la ville du Cap. Et le Cap se distingue à présent comme étant la ville la plus violente du pays. Grâce à la guerre des gangs, dans les Cape Flats. Mais il y a aussi des scènes qui se passent dans le KwaZulu-Natal. James McClure m'a inspiré pour ça, un écrivain sud-africain. J'ai un peu recréé cette ambiance particulière en m'inspirant de détails qu'il donnait dans ses premiers livres. D'abord parce que ça me faisait plaisir de faire référence à un auteur de polar qui m'avait précédé. Vous savez, la tradition du polar n'est pas aussi établie qu'elle l'est ici en Europe, notamment en France. Et je trouvais important de faire ce lien entre cette œuvre qui remonte au début des années 70 et puis moi quand j'écrivais vers 2015. Mais tant dans les villes que dans les zones rurales, la violence règne, où que vous vivez. Et le risque d'être tué est très élevé partout.
Il y a trois lieux qui organise le récit de l'agence. Mike Nicol, le premier, donc c'est le Cap où effectivement on est assassiné dans la rue pour des raisons telles ou telles, notamment des raisons politiques. Ça, c'est un premier lieu. Il y a un deuxième lieu qui est Berlin. Berlin où se rend donc l'héroïne, on peut le dire, du roman. Et le troisième lieu, c'est le palais présidentiel dans lequel il y a cette sorte d'endroit réservé qui est le bunker. Chaque lieu détermine un peu une image différente du récit policier. Le Cap, c'est véritablement le polar high-tech, le polar d'aujourd'hui, entre les gangs et la haute technologie. Berlin, c'est vraiment un hommage que vous rendez aux années 50, à la guerre froide, à Checkpoint Charlie, à John le Carré, avec ses vieux contacts un peu vieillissants. Et puis le bunker, alors là, on retrouve Shakespeare, c'est véritablement le palais du monarque délirant, qui incarne bien, je dirais, la décadence post-révolutionnaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le pouvoir, on oublie les promesses, on oublie la fidélité aux valeurs et on se vautre dans les plaisirs et la richesse. Donc il y a un peu trois récits qui organisent tout cela. Votre roman.
Yeah, all I can do is say thank you.
Oui, je ne peux que vous remercier, François.
You're completely right.
Vous avez parfaitement raison. Berlin, c'était en effet l'occasion pour moi de rendre hommage à la ville des espions et à cette période-là. Par ailleurs, j'ai eu la chance de passer une année à Berlin. Donc ça m'a fait revisiter cette ville. Et Berlin s'apparente beaucoup au Cap, en un sens. C'est où c'était, bon c'est moins dur maintenant, mais ça a été une ville très dure. Et quand j'étais là, à Berlin, en 1997, eh bien ça m'a un peu appris à aborder l'Afrique du Sud d'une manière que je n'avais pas imaginée avant. Quand je suis revenue au Cap, eh bien j'ai vu la ville sous un regard neuf après mon séjour à Berlin. Les Berlinois ont subi des siècles d'invasion et en un sens, c'est la même chose pour le Cap. Ce n'était pas une ville avant l'avènement du colonialisme et depuis, elle n'a cessé d'être envahie, prise de manière successive. Et j'avais envie de parler de tout cela. La ville, c'est quelqu'un, cette ville, notamment du Cap, c'est quelqu'un où les gens sont venus s'établir de manière violente. Et après, le bunker du président, oui, c'est Jacob Zuma, le président, qui a créé tout ça lui-même. Je n'ai pas eu à faire un saut d'imagination. Il s'est construit cette propriété privée aux frais du contribuable. On lui demande d'ailleurs de rembourser tout cela. Et puis il avait cette piscine. Et ils avaient prétendu qu'il fallait creuser une piscine au cas où il y avait un incendie pour pouvoir y puiser de l'eau. Voilà. Donc je trouve que c'était bien d'avoir le bunker avec des grands panneaux vitrés de sorte que le président puisse regarder les filles qui se baignaient dans la piscine.
La littérature sud-africaine qu'on a connue, nous, des années 60 aux années 90, était dominée par des écrivains magnifiques, dont plusieurs ont eu le prix Nobel d'ailleurs, et qui se positionnaient contre l'apartheid, qui fondaient leur œuvre sur la lutte contre l'apartheid. Je pense à Doris Lessing, Nadine Gordimer, André Brink, Breton Bach, entre autres. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez les héritiers de cette génération? Est-ce que vous avez l'impression que la dénonciation anti-apartheid qui n'a plus lieu d'être est remplacée maintenant par le polar et ce rôle aussi que vous avez, vous, de dénoncer les errements de la société sud-africaine aujourd'hui? Et je pense à vous comme à Roger Smith, à Deon Meyer et à une espèce de génération de maîtres du polar sud-africain.
It's an interesting situation in the country's literature at the moment.
Ouais, c'est intéressant la situation de la littérature sud-africaine actuellement.
My book started out
sous mains aspects, j'ai commencé à écrire lorsque l'apartheid régnait encore dans les années 1980. Et on ne pensait pas qu'on pourrait y mettre un terme. Et puis tout à coup, l'apartheid a pris fin. Et le pays, ou plutôt ses écrivains, ont dû se demander comment aborder cette réalité nouvelle. Deon Meyer est arrivé, il écrivait en afrikaans, et il a commencé à parler de ses crimes, des procédures policières, etc. En découvrant ses romans, je me suis dit, ah, voilà un moyen intéressant de parler du pays. Je lui dois ça à Deon Meyer, il m'a montré la voie. Mais j'apprends lentement. Donc, pour passer de ce que j'écrivais avant à l'écriture du polar, il m'a fallu une petite dizaine d'années. Donc, je ne sais pas si réellement je suis un héritier des écrivains de l'apartheid, parce qu'en fait, il nous a fallu créer une façon nouvelle de regarder la société, d'où le rôle du polar. Mais de 2010 à 2016, les chiffres, le nombre d'écrivains de polar a grimpé. Une cinquantaine d'ouvrages ont été publiés à ce moment-là et depuis ça a baissé. Smith n'écrit plus de polar. Dion Meyer, si. Mais en anglais, je suis le seul qui reste. Il y a une poignée d'autres écrivains, mais qui écrivent en afrikaans et ce n'est pas traduit en anglais. Donc, pour une raison que je n'explique pas vraiment, mais le genre du polar n'est pas devenu populaire, n'a pas été embrassé par beaucoup d'écrivains sud-africains. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est de la fiction, a priori, voilà, et pas la réalité.
Alors, la réalité de l'Afrique du Sud s'incarne évidemment dans l'image très iconique de Nelson Mandela. Vous avez écrit deux livres sur Mandela, une biographie sous-titré en français « Biographie autorisée », un livre non traduit qui s'appelle « Celebrating the Legacy », donc « En célébrant l'héritage », qui sont deux postures a priori qui n'ont pas l'air extrêmement critiques. Est-ce que, pour vous, la figure de Mandela est sauvée quand même de la vision assez catastrophique que vous donnez aujourd'hui de l'Afrique du Sud ?
I think what happens as the years go by.
Avec les années, ce qui s'est passé, c'est que voilà, bon, Mandela n'était pas un saint. Il a fait des choses assez terribles, notamment envers les femmes. Mais c'était un homme qui avait une vision et il s'est tenu à cette vision. Il lui a été fidèle. Et je pense qu'il a fini par se montrer juste envers toutes les composantes du pays. Il était avocat, donc il avait une certaine formation qui lui faisait voir les choses d'une certaine manière. Et on n'a eu personne de son calibre depuis. Malheureusement, notre nation semble dépendre de figures un peu christiques pour continuer à nous faire espérer en un avenir. Mais personne n'a pu reprendre le rôle de Mandela. Thabo Mbeki, il avait étudié à l'université, il était universitaire, mais il croyait dans les petits martiens. Voilà, après on a eu Jacob Zuma. Qui lui a mis à sac le pays, on peut le dire. Alors, est-ce que Cyril Ramaphosa sera notre prochain Christ qui va sauver le pays ? Je ne sais pas encore. Mais je ne crois pas que la réputation de Mandela soit détruite, soit entachée. Il a eu un destin exceptionnel, une vie exceptionnelle. Il a fait des erreurs qui n'en fait pas, mais il a eu un destin absolument exceptionnel.
Mac Nicol, vous évoquez le Christ qui sauvera l'Afrique du Sud. Dans un de vos romans, mais publié quand même il y a quand même une vingtaine d'années presque, Day and Age, vous mettez en scène le millénarisme africain et une sorte de messie qui incarne la revendication des paysans pauvres et qui, Bible à la main, réclame la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, ce millénarisme est toujours présent ?
Oui, je crois qu'il existe encore dans certains pans de la société. La population noire d'Afrique du Sud a une inclinaison pour ce type d'expérience religieuse. Et il y a des milliers d'adorateurs qui ont besoin de cet élément prophétique. Mais sinon, non, c'est mineur.
Depuis votre premier roman, La loi du capitaine, j'ai l'impression que le dialogue a une place de plus en plus importante dans vos livres. Pourquoi ? C'est une question de rythme ? C'est au contraire que c'est par la parole que les vérités vous semblent s'incarner de manière plus juste ?
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que personnellement, au début, je trouvais très difficile l'écriture de dialogue. Donc, je n'y touchais pas trop. Mais avec le polar, vous savez, le polar, c'est le roman le plus démocratique qui soit. Tout le monde l'ouvre à tout instant, tout le monde parle. Et j'ai commencé à écouter les voix dans la rue pour avoir un petit peu le bon rythme, le rythme des paroles. Vous savez, il y a un rythme du parler sud-africain. donné essentiellement par la langue afrikaans. Et je voulais capter ce rythme. Et puis tous les termes dans l'anglais sud-africain qui est emprunté à toutes les langues principales du pays. Et je voulais exprimer tout cela dans mes dialogues et ce métissage. Mais vous savez, les livres voyagent. Et quand ils arrivent en France, par exemple, le traducteur doit se batailler pour traduire le son d'une phrase qui va sonner totalement différemment en sud-africain, en anglais sud-africain et en français. Et pour le Royaume-Uni, il faut presque que je traduise mes phrases en anglais britannique plutôt qu'en anglais sud-africain.
Pourquoi écrivez-vous en anglais et pas en afrikaans?
I was brought up speaking English and,
j'ai une éducation anglaise, j'ai été élevé dans la langue anglaise et mon afrikaans, je le crains, est aussi médiocre que mon français.
It's my home language and so it's the language.
Non, c'est vraiment ma langue, l'anglais.
Mike Nicol, on a évoqué des figures masculines avec le redoutable tyrannique président, son fils Zama qui est un personnage encore pire, dont la juvénilité est encore plus inquiétante que la folie du père. Il y a des personnages du service secret, il y a des détectives surfeurs. Bon, tout ça c'est bien, mais il y a surtout d'extraordinaires personnages féminins dans l'agence. Mike Nicol, Vicky Khan d'abord, qui est au cœur de l'agence secret, qui est au cœur des combats, et puis tout un tas de femmes qui sont promises, je dirais, au commerce de la chair, des mannequins, des call girls, et puis des petites filles qu'on achète dans les campagnes et qu'on regroupe comme un troupeau de moutons. Il y a aussi cette conscience et cette mise en scène extrêmement dramatique de la situation féminine en Afrique du Sud, Mike Nicol.
Interestingly, somebody once said to me, "Did I have a problem with women?"
Quelqu'un m'a posé un jour la question, vous avez un problème avec les femmes? Parce que toutes les femmes dans mes romans sont des figures très fortes, puissantes. Et on m'a demandé si ma mère était une dominatrice.
C'est pas un problème.
Non, c'est pas du tout le cas. Je pense simplement que les femmes sont merveilleuses. J'aime les femmes et j'apprécie leur compagnie plus que celle des hommes. Mes personnages féminins, je voulais qu'ils soient à égalité, sur un pied d'égalité, et même qu'ils soient meilleurs, bien sûr, que les personnages masculins. Et puis je voulais faire quelque chose de neuf. Et dans la fiction sud-africaine, si on veut faire du nouveau, eh bien il suffit de s'intéresser à des femmes sud-africaines et présenter comme des personnages autonomes, indépendants. Rien que ça, c'est nouveau. C'est ce que je me suis efforcée de faire, assurément avec ce personnage de Vicky Khan, avocate qui devient espionne, agente secrète. Et je voulais qu'elle soit très sûre d'elle, qu'elle connaisse sa place dans le monde. Donc elle a envie d'aller vivre avec Fish Pescado, son amant, mais en même temps elle a son propre appartement, elle est autonome et puis elle garde sa vie privée, sa vie professionnelle séparée.
Est-ce que Vicky Khan et Fish Pescado reviendront? Est-ce que vous avez envie d'en faire des héros récurrents ou au contraire votre livre est ce qu'on appelle en un français déplorable un one shot?
No, they started out in a book called Of Cops and Robbers.
Ces personnages sont apparus dans un premier livre qui s'appelle « Du sang sur l'arc-en-ciel ». C'est donc leur seconde apparition. Et dans un troisième livre qui porte le titre de « Sleeper ». Et je viens d'en terminer un quatrième de cette série. Donc voilà, ils auront une suite, on les reverra, ces deux personnages.
Nous en sommes ravis.
Absolument. Merci infiniment, Mike Nicol, pour cet entretien. Donc, accordé à Mauvais Genre sur France Culture à l'occasion de l'Agence aux éditions Gallimard en série noire. Et Mauvais Genre remercie FDR pour sa traduction et Christelle Matta, donc des éditions Gallimard, pour l'organisation impeccable de cet entretien. Élise Lépine, quelques mots sur Mike Nicol, puisqu'hélas vous avez pu être des nôtres.
Je n'ai pu être des vôtres, mais oui, Mike Nicol, c'est un auteur que dont j'avais beaucoup aimé les précédents, La Dette, Killer Country, Du sang sur l'arc-en-ciel dont il a parlé. Je trouve que son grand talent, et ce qui est très intéressant chez lui, c'est de dynamiter effectivement ce mythe de la nation arc-en-ciel dans laquelle tout va très bien, Madame la Marquise, après quelques petits déboires, et il nous montre bien qu'en fait les dessous de la situation en Afrique du Sud ne sont absolument pas aussi propres et souriants qu'on voudrait nous le faire croire.
Autre élément important, Hubert Prolongeau, c'est cette capacité qu'ont les auteurs anglo-saxons à réinvestir leur mythe littéraire. Dans un précédent roman, c'était Shakespeare. En France, je connais pas d'auteurs qui réinvestissent, on peut citer Rimbaud ou X ou Y, mais qui réinvestissent à ce point un mythe littéraire à l'intérieur d'une fiction. Là, c'est Lewis Carroll, bizarrement, hein, dans un thriller sud-africain high-tech et barbare. On voit arriver des citations de Lewis Carroll qui ne détonnent absolument pas. C'est quand même une capacité assez unique.
Oui, tout à fait, et qui ne se contente pas de transposer, de faire un exercice de style. Comme je sais pas, La Moison l'avait fait avec Sophocle en transposant un univers qui n'en est pas dans le dans l'univers du polar. Là, c'est une vraie réflexion sur ces mythes fondateurs. Et c'est intéressant de noter que Mike Nicol est un auteur qui, à l'inverse, je sais pas, chez nous, d'un Pierre Lemaitre qui démarre dans le polar puis s'achète sa respectabilité en passant à la littérature blanche et dite noble. Mike Nicol a fait l'inverse. Il a commencé par écrire des livres. Le premier s'appelait La Loi du Capitaine, est sorti dans les années 80 au Seuil, qui étaient des livres de littérature blanche, et il en est arrivé maintenant à faire du noir de plus en plus fort, de plus en plus genré, si l'on peut dire, et avec un talent extrême.
Dernier mot, Lise Lépine.
Injustement passé sous silence quand même, il y avait eu Trop de morts au pays des merveilles de Morgan Odick et Rouergue Noir, hein, qui reprenait aussi quand même ce fameux mythe, et c'était brillant.
Merci à tous deux, et on passe maintenant au moment chronique de Mauvais Genre. On commence avec vous, Hubert Prolongeau, par un ouvrage sud-africain, puisqu'on file la métaphore, si j'ose dire.
Un ouvrage qui se passe en Afrique du Sud, donc qui n'est pas sud-africain,
oui, sud-africain
lui-même, de, enfin,
par
de nationalité,
son cadre.
Voilà, qui est le deuxième d'un auteur allemand, Max Annas. Ça s'appelle Enfer Blanc. C'est un livre qui se passe donc en Afrique du Sud, qui mêle plus de thèmes, qui est peut-être moins rigoureux que ne l'est Mike Nicol. On y trouve évidemment les traces de l'apartheid, mais on y trouve aussi le racisme actuel, et surtout ces endroits qu'on appelle les gated communities, qui sont ces espèces de résidences pour riches blancs où les noirs ne rentrent pas, qui avait été mise en scène dans un film mexicain assez formidable qui s'appelait La Comunidad. Mmh. Et un jeune étudiant noir, la situation un peu qu'il y a dans le film de Jordan Peele, un jeune étudiant noir tombe en panne et doit se réfugier dans une de ses résidences. En parallèle, il y a un cambriolage qui est commis et les personnages qui tournent autour de ça vont se retrouver. C'est un livre court, très bien mené, écrit avec fougue, qui développe avec un brio évident la situation de base, tout en disant lui aussi des choses bien senties sur l'Afrique du Sud et sur l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, pas uniquement sur celle du passé. Et ben, si jamais j'avais été Bernard Pivot et si j'avais eu ce livre avec moi le jour où on a vu Mac Nicol, eh bien je lui aurais donné. C'est dire comme je pense qu'il en est digne.
Absolument. On passe maintenant donc à votre seconde chronique, Hubert, Franz Bartelt.
Bartelt, qui, à l'inverse, que sera peut-être Max Annas un jour, n'est pas un maître du polar allemand, contrairement à ce que son nom pourrait faire croire, mais du polar français. Il a écrit beaucoup chez plusieurs éditeurs. Il a mis longtemps à publier, alors qu'il avait écrit pas mal de livres qu'il gardait par-devers lui. Et celui-là s'appelle « À les braves gens ». En 2016, il avait eu le Grand Prix de littérature policière avec « Hôtel du Grand Cerf ». « À les braves gens » est dans le même genre.
Également au seuil.
Voilà. Je dirais, avec un sens du jeu de mots admirable, que c'est plus qu'un roman noir, c'est un roman boire, parce que la bière
coule
particulièrement à flot, qu'on écluse des gorgeons à tour de page, que tout se passe à Puffigny, qui est un village situé dans une France tellement profonde que plus personne ne sait exactement où c'est, même si on peut reconnaître sans doute quelques caractéristiques des Ardennes, où est né et où vit Franz Bartelt. Donc les habitants picolent d'abondance, se racontent des histoires les uns aux autres, se mentent abondamment, et c'est là que débarque un jour un écrivain raté qui multipliait les échecs et qui cherche ce qui est une quête à la fois spirituelle et matérielle, son père et un colossal butin. On est quelque part dans le polar dit rural, mais rural rigolo, quelque part entre affreux, sales et méchants pour la peinture des personnages et Fantasia chez les Plouques pour le décor. Donc tous ceux qui avaient aimé à l'Hôtel des Grands Cerfs retrouveront ici un peu le même univers. C'est vrai que Bartelt, c'est une voix assez unique dans le polar français, dans le précédent, un des précédents, Chaos de famille aussi. Il y avait déjà cet univers déjanté, cet art de la digression et ces personnages assez étonnants. Je pense là à un unijambiste qui a enterré sa jambe et va se recueillir devant elle assez régulièrement. C'est parfois un peu frustrant parce que le récit s'éparpille, parce que les personnages sont parfois tellement nombreux qu'ils sont trop peu traités, mais c'est quand même souvent extrêmement réjouissant et ça donne à voir une France qu'on ne voit pas beaucoup. Donc Puffigny, dont on ne sait pas si c'est dans les Ardennes ou non, mais accueille des truculents héros avec lesquels je vous suggère de passer un petit moment.
Alors, ce qui est intéressant chez Bartelt, c'est la langue. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé chez lui, c'est la langue est première. En définitive, c'est moins un raconteur d'histoire qu'un manipulateur de langage.
Et qu'un styliste, ce qu'on ne voit pas assez chez un certain nombre d'auteurs de polar qui, effectivement, mettent l'écriture au premier. On peut penser à Pouilly, on peut penser à Jonquet, où l'intrigue est parfois mollassonne et c'est filoche. Mais effectivement, le vrai travail sur le style est là, et c'est le style qui fonde ce qu'il écrit. Chez Pelot, par exemple, aussi, qui a fait dans tellement de choses, qui a fait dans le rural et dans le lyrisme rural de façon extrêmement marquée. Et c'est vrai que ces gens-là sont avant tout des écrivains.
Oui, parce que si on prend par exemple les deux volumes qu'a publié Bartelt au Dilettante, il y a une continuité de langage, c'est-à-dire que il y a une sorte de verbe poétique qui se maintient quelle que soit l'histoire. Donc c'est pas vraiment un auteur de roman noir, c'est pas un auteur, c'est pas un polardier comme on dit, c'est quelqu'un qui par moment pose ses doigts sur les touches noires et fait un roman. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une dimension poétique.
Ouais, c'est un de ces auteurs qui ont un univers plus qu'un talent de constructeur d'intrigues.
Donc Franz Bartelt, Oh les braves gens, c'est aux éditions du Seuil. Élise Lépine nous vient avec porteuse d'un volume de chez Nadège Agulot.
Voilà,
qui continue sa marche triomphale dans l'édition de genre.
Absolument, avec des romans qui sont toujours, en tout cas très souvent, de très bons livres. Et là, c'est Il était une fois dans l'Est d'Arpad Soltej. Tout à l'heure, vous aviez dit comment, Soltej?
Oh, tout est possible, vous savez, quand
tout est possible. Moi, je vais dire Soltej.
On improvise.
Voilà, donc un roman slovaque qui est pour moi, c'est énorme, hein, c'est une grosse sortie, c'est important. Je vous le raconte rapidement l'histoire. On est en Slovaquie, fin des années 90. On n'est pas à Bratislava, donc qu'on pourrait penser un peu plus citadine, voire civilisée entre guillemets. On est dans l'est du pays, zone un peu rurale, petite ville, et une jeune femme se balade dans la rue, fait du stop, et elle est ramassée par deux individus patibulaires qui l'emmènent dans un appartement, qui la violent pendant plusieurs jours et qui ont l'intention eh bien, de la donner à une maison de prostitution, à un réseau de prostitution du coin. Sauf qu'ils se rendent compte qu'en fait, cette jeune fille, elle est mineure. Ça complique un peu les choses pour eux, mais tout problème a sa solution, puisqu'ils vont appeler les Albanais, qui sont connus pour emmener les filles au fin fond de l'Albanie, d'où on n'ira jamais les récupérer. La jeune fille, heureusement pour elle, parvient à s'échapper. Elle arrive au commissariat, elle reconnaît l'endroit, elle reconnaît l'agresseur. On arrête le chef, le grand malfrat, Mammouth. On le met en prison, mais très bien. Bientôt, Mammouth va ressortir. Pourquoi ? Parce que Mammouth, il est utile à pas mal de monde. Et là, cet auteur nous montre en fait que cette Slovaquie fonctionne comme un système mafieux gigantesque et que le pays est pourri, j'ai envie de dire, de la cave au grenier. Donc en fait, Mammouth, eh bien, on va le faire sortir puisque les hommes politiques, la justice, la police, les hommes d'affaires, tous fonctionnent de façon complètement corrompue. Alors il y a quand même trois hommes dans ce livre qui vont venir au secours de la jeune Véronica qui, elle, demande vengeance. Il s'agit de Mickey, Miko et Valent le Barge. C'est un duo de flics qui, en fait, on comprend vite qu'ils n'ont de flics que le nom, puisque en fait, ils utilisent les, disons, les méthodes des gangsters et des criminels pour écraser, justement, le crime. Donc, eux vont aider Véronica. Et puis, il y a un journaliste aussi, Schlesinger, qui veut faire éclater la vérité. Et je pense que ce journaliste, c'est un peu l'alter ego dans le livre de l'auteur lui-même, Arpad Soltez, puisque c'est un grand journaliste, il est très respecté en Slovaquie. Il a lui-même été passé à tabac, il a été intimidé, menacé régulièrement, etc. Il faut pas oublier que la Slovaquie, on plaisante pas, il y a quand même un journaliste d'investigation qui a été assassiné l'année dernière avec sa compagne. Donc c'est pas un métier de tout repos, et là c'est pas un polar qui sort d'une imagination, voilà, avec un auteur les pieds dans ses pantoufles qui se dit tiens je vais écrire un bon polar. Là on est dans du concret. On va vite être dans une affaire de traite des blanches, mais en essayant de démanteler ce réseau de traite des blanches, ils vont se rendre compte, ces trois enquêteurs, que c'est bien plus que ça qui est organisé par ces mafieux, c'est aussi de l'ethnotourisme. L'ethnotourisme, c'est prendre des Roms qui sont déjà de toute façon parqués dans des ghettos, qui sont censés recevoir des aides de l'Europe, mais qui leur sont confisqués par des puissants, et puis on les met dans des taxis, on les envoie à Bruxelles. À Bruxelles, ils demandent des aides de demandeurs d'asile qu'ils obtiennent, on les remet dans le taxi, on leur prend tout l'argent, on leur laisse juste de quoi pas mourir de faim, etc. Donc c'est tout un tas de circuits fermés qui fondent comme ça cette Slovaquie criminelle. Donc c'est un roman très noir, un roman très costaud qui m'a rappelé d'ailleurs Citoyen clandestin par exemple de DOA. Un roman aussi exigeant qui nécessite quand même de la concentration. On va pas lire roman de plage ou je sais pas entre la tartiflette et la tisane des marmottes. Voilà,
c'est manger de la tartiflette voilà. Et de la tisane sur la plage.
Non mais on va pas se détendre le cerveau en lisant ce texte. C'est ardu, mais en tout cas c'est un texte absolument formidable.
Deuxième proposition de lecture.
Alors là, c'est un roman qui est passé sous les radars de la rentrée littéraire et c'est très dommage. Belle infidèle de Romane Lafaure. C'est l'histoire d'un jeune traducteur qui rate un peu sa vie. Sa copine l'a plaqué. Il aimerait écrire, il n'y arrive pas. On lui confie la traduction d'un superbe roman italien qui fait un carton en Italie. Sauf que en traduisant, il se rend compte que l'héroïne, au grain de beauté près, c'est sa copine qui l'a plaqué et que les personnages lui évoquent étrangement ses amis, ses proches et des choses qui lui sont réellement arrivées. Il va sombrer dans une espèce de paranoïa, et Romane Lafaure, elle crée un vrai mystère littéraire dans lequel la traduction agit comme une clé pour percer le code et qui va nous entraîner voilà, au cœur de la paranoïa, qui va nous poser la question, dans quelle mesure on a raison ou tort de voir dans le réel une traduction de notre propre vie intérieure. C'est un texte qui a un style généreux, voluptueux, c'est vraiment gourmand en mots, en vocabulaire, style formidable, coloré, parfumé. Romane Lafaure, vraiment, ami journaliste, lecteur, libraire, lisez-la et faites-la connaître.
Eh ben voilà, si vous n'êtes pas convaincu, on ne peut plus rien. Pour vous, on termine cette émission, bien évidemment, avec Christophe Beer.
Champion de natation, ancien romancier et journaliste sportif, Henri Decoing est un cinéaste intuitif, tournant vite, improvisant selon les contraintes, attentif aux acteurs et scrupuleux sur les budgets. Il est de ceux qui sont qualifiés de solides artisans. L'étiquette condescendante a jeté au purgatoire ces nombreux artistes estampillés qualité française. Pourtant, De Coin et Merveille, par des mélos sublimes et des comédies trépidantes avec Daniel Darieux dans les années 30, et se révèle un brillant adaptateur de Georges Simenon. La vérité sur Bébé Donge est son chef-d'œuvre d'une bouleversante noirceur. Ces années d'après-guerre sont à réévaluer. Le désenchantement tragique des Amoureux sont seuls au monde, le lyrisme épique d'Au grand balcon, la fantaisie sarcastique d'Entre 11h et minuit, mais aussi, tourné en 1947, ce non coupable d'un dérisoire effrayant, écrit par Marc-Gilbert Sauvageon. Après Monsieur Hir, lynché dans Panique de Duvivier, Michel Simon joue un autre réprouvé, le docteur Ancelin, alcoolique notoire d'une petite ville d'Indre-et-Loire, méprisé par les notables pour son indépendance d'esprit et de mœurs. Ancelin ne crache pas sur les médecines parallèles et vit ouvertement avec sa maîtresse. De Coin en fait le héros risible d'un conte grinçant sur la déchéance et l'orgueil. Il suffit d'une route boueuse la nuit, d'une conduite en état d'ivresse, d'un motocycliste percuté et tué. À ce crime involontaire, maquillé en accident, s'ajouteront trois meurtres prémédités. Ancelin tient sa revanche, artiste vaniteux d'assassinat parfait, mais conscient de sa relativité. Un sentiment poussé au paroxysme, dit-il, peut donner du génie à n'importe qui. Il n'a dès lors qu'une envie, sortir du néant social, être reconnu pour ses méfaits. Mais le scénario tourne à la farce cruelle. La réalisation ne s'embarrasse d'aucune esbroufe, servie par une star qui économise les effets, ogre éthylique aussi débonnaire qu'inquiétant. Avec De Coin, les comédiens sont toujours remarquables de justesse. Les yeux effarés de peur de Jeannie Holt, Jean de Bucourt en inspecteur englué de médiocrité, Jean Val, insupportable de suffisance. Il y a du Simenon dans cette radiographie aigre d'un patelin provincial dégustant le petit frisson collectif et qui vire au cauchemar sans pitié. La bêtise en sort triomphale. Une seconde fin convenue fut tournée qui atténuait l'horreur et compte parmi les bonus du généreux combo édité par Coin de Mire, label providentiel des amoureux du cinéma français populaire. Il offre à Non Coupable une nouvelle restauration magnifique avec des compléments nostalgiques qui restituent les actualités, réclames et bandes annonces de l'époque.
Merci Christophe Bure, une collection qui se signale également par ses remarquables visuels de couverture. Je rappelle les ouvrages et les événements évoqués ce soir. Du 16 octobre au 5 novembre à la Cinémathèque de Toulouse, festival Edgar Poe. Notre invité de ce soir, c'était Mike Nicol pour l'agence en série noire Gallimard. On ne rate évidemment pas Les sorcières de Céline Duchesnay aux éditions Michel Lafond. Et puis les ouvrages évoqués en chronique, Maxana sans fer blanc chez Belfond, Franz Bartelt, Ah, les braves gens au seuil, Arpad Soltès, Il était une fois dans l'Est chez Agulot, et Romane Lafort, Belle infidèle chez qui, Élise Lépine?
Chez Stock, collection Arpège.
Merci Élise. Et puis comme il faut toujours saluer ces vrais, ces bons auditeurs, mauvais genre salue l'équipe du professeur Emmanuel Tégère à l'hôpital Henri Mondor, vrai connaisseur de la question. Toute l'équipe de mauvais genre, Laurent Polleret, Guillaume Leduc, Claire Poinsignon, Claire Martin-Dugard, Céline Duchesnay, Élise Lépine, Hubert Prolongeau, Christophe Bire et François Angelier vous remercient d'avoir suivi l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer la rentrée paranormale. Car en effet, entre les romans parus aux éditions Albin Michel sur Mesmer, le roman d'Éric Faye au seuil sur la visionnaire qui était dictée depuis l'au-delà par Chopin, et puis Substance de Claro, et puis la magnifique exposition sur les peintres spirites à Villeneuve-d'Ascq, la rentrée de cette année est résolument paranormale et on lui fera fête. D'ici là, bonne nuit à tous.